Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Florence Berthoux, maire du 5e arrondissement de Paris, présidente du groupe LR et indépendant au Conseil de Paris, également conseillère régionale d'Île-de-France. Bonsoir.
Bonsoir.
Florence Berthoux, nous allons parler de Paris et des municipales de 2020. La question des transports arrive en tête des préoccupations des Parisiens avec le logement, la propreté, la sécurité, on en parlera. J'aimerais qu'on s'arrête un moment sur la question des transports. Anne Hidalgo, qui prépare sa réélection, réfléchit à la gratuité du métro et des bus à Paris. Elle n'a pas pris de décision, mais j'ai vu qu'elle est allée à Dunkerque où les transports en commun sont gratuits. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet?
Alors d'abord, Dunkerque n'est pas à Paris pour au moins deux raisons. C'est que Dunkerque n'a pas de métro, précisément. Il n'a que des transports collectifs de surface. C'est une métropole, je ne vous apprends rien, qui est beaucoup moins étendue. Le niveau de vie moyen n'est évidemment pas celui de Paris. Et puis, coût de la gratuité à des transports à Dunkerque, d'après mes informations, tournerait autour de 5 millions d'euros. Donc, si ça pouvait convenir à Dunkerque, à Paris, il y a d'abord un problème de coût, c'est-à-dire que c'est au moins 700 millions d'euros, c'est-à-dire 10% du budget de fonctionnement d'une ville qui aura réussi la prouesse depuis 2014 de multiplier par deux, vous m'entendez bien, par deux son endettement. Donc c'est considérable. Pourquoi, à un moment donné, la question de la gratuité des transports pourrait être intéressante? Il ne faut pas, a priori, dire non à tout. Elle pourrait s'avérer intéressante quand c'est un effet levier pour utiliser des transports en commun, pour des personnes qui ont pris l'habitude d'utiliser à mauvais escient la voiture individuelle polluante. Est-ce le cas à Paris? À Paris, de l'aveu même de Madame la maire de Paris, il y a moins de 10% des Parisiens, c'est-à-dire une minorité, qui utilise la voiture, dont une partie, c'est vrai, s'avère être polluante. Si on passait à la gratuité, ça coûterait 700 millions d'euros pour peut-être, je dis bien peut-être, permettre à cette infime minorité de passer au transport collectif. Sachant que toutes les études montrent que les premiers à prendre les transports en commun, à arbitrer dans ces cas-là, ce sont des personnes qui partent, par exemple, aller à pied, utiliser d'autres modes comme le vélo, etc. Bon, avec un effet sur la réduction de la circulation qui serait vraisemblablement inférieur à 2%. Donc, l'effet est infinitésimal. Par ailleurs, ce que l'on demande et ce dont on a besoin, ce que demandent tous les Franciliens, c'est d'avoir des transports en commun, précisément. Pendant 30 ans, la région Île-de-France n'a pas investi pour rénover son réseau. Elle n'a pas investi. Elle n'a pas investi, ce qui fait qu'on a accumulé un retard considérable pour avoir de nouvelles lignes, pour en étendre certains, et puis aussi pour avoir, déjà sur les lignes existantes, des transports qui sont propres, qui sont accessibles et qui sont sécurisés. Toutes les études montrent qu'aujourd'hui, ceux qui ne prennent pas les transports en commun, c'est soit parce que, pardon de dire une banalité, mais ils n'en ont pas de transports en commun, ou alors ils vont mettre des heures pour aller en voiture à une gare qui va les amener à un métro, qui va les amener sur le lieu de leur travail. On ne prend plus, comme c'était le cas, c'est vrai, il y a encore une dizaine d'années, vous ne prenez plus la voiture pour des raisons de confort. C'est totalement epsilonesque. Donc ce qu'il faut, c'est dépenser, comme le fait aujourd'hui la présidente de région, des milliards d'euros, parce qu'on parle en milliards, pour investir sur ce réseau de transport. Il y aura 1000 bus électriques qui ont été commandés par la région à horizon 2020 et tout le réseau de bus, je dis bien tout le réseau de bus, aura été revu. Ça fait 70 ans qu'on n'a pas revu, vous m'entendez, en Île-de-France, qu'on n'a pas revu les lignes du réseau bus. Donc ce que nous demandent les administrés, c'est du transport en commun. Un Pass Navigo, c'est 75,20 centimes d'euros.
Il a été augmenté par Valérie Pécresse.
Oui, parce que, il fallait payer, si vous voulez, le prix unique du Pass Navigo. C'était pas financé. Ce cadeau avait été fait par son prédécesseur, non financé. Donc maintenant, on a un pass qui est à 75,20 €. Mais dans les faits, vous avez 2 700 000 de franciliens qui sont abonnés au Pass Navigo. 70% d'entre eux bénéficient d'un remboursement de la moitié de l'employeur, c'est-à-dire qu'on a un pass Navigo qui est à 37,60 €. Bon, alors je ne dis pas que le coût n'est pas un sujet, mais vous avez en plus, je rappelle, la gratuité pour beaucoup de personnes, puisqu'il y a 1 million de franciliens qui bénéficient déjà de transports gratuits ou à tarifs réduits. Donc, l'enjeu aujourd'hui majeur, c'est que les collectivités, elles dépensent des centaines de millions d'euros pour que on désencombre la ligne 13 pour que sur les lignes 4, les lignes 11, 12, 14, le RERE, par exemple, je parle de sujets un peu plus parisiens, on puisse prolonger ces lignes-là et qu'on fasse un maximum d'accessibilité, de sécurité et de propreté, comme la région est en train de le faire.
Donc des transports collectifs gratuits à Paris, ça empêcherait le développement...
Mais bien sûr, tout le monde le sait.
De ces transports.
Depuis quand on vous fait un cadeau qui est gratuit? Il faut bien que quelqu'un les paye. D'abord, je veux dire, on est toujours plus généreux avec l'argent des autres. Ça tombe bien parce que la question du financement des transports, l'essentiel est payé quand même, je le rappelle, par la région Île-de-France Mobilité, l'État. Bon, et puis la ville de Paris.
Donc c'est une promesse de campagne pas être tenue par une municipalité.
Si c'est ça, il faut que ça ait un intérêt. Il faut que c'est un intérêt. Je viens d'apporter la démonstration, mais technique, objectif, que l'intérêt est tout à fait mineur, mais que surtout, ça ne règle pas le problème de l'investissement après 30 ans de sous-investissement chronique pour créer les lignes qui vont bien. L'État doit également prendre toute sa part, regarder le grand Paris Express, dont l'échéance des travaux a été repoussée. Donc il faut que ces grands travaux puissent être financés et avoir lieu. Croyez-vous sérieusement que ça peut être la gratuité qui va permettre de prendre, par exemple, les transports en commun pour permettre aux professeurs, par exemple, qui chez moi sont à AgroParisTech, qui va être déménagé à Saclay, d'aller à Saclay. Eux, ce qu'ils demandent, c'est des transports en commun aussi. Et surtout, ils n'ont aucune envie de prendre leur voiture. Et s'il n'y a pas de transport en commun, vous pouvez toujours imaginer la gratuité, ils seront obligés de prendre leur voiture. Donc c'est un sujet qui est très important. Je dirais c'est aussi démagogique qu'inefficace. À un moment donné où la mairie de Paris a fait capoter Autolib 100 000 abonnés qui du jour au lendemain se retrouvent sans solution alternative. Et où Vélib est le fiasco que vous connaissez, parce qu'on me dit « Ah, Vélib, ça avance, encore heureux ». Je rappelle que ça devrait être totalement effectif depuis le 1er janvier de cette année. Nous sommes au mois de novembre déjà bien entamés. Mais vous avez aujourd'hui à peu près 55 000 personnes qui utilisent Vélib par jour, quand l'année dernière, on en avait deux fois plus. Et en abonné Vélib aujourd'hui, vous en avez deux fois moins. Donc de qui se moque-t-on? Il faut être cohérent. Le politique, il n'est pas là pour faire des promesses inconsidérées à la veille des élections. Il est là pour répondre en responsabilité aux attentes et aux demandes de ses administrés.
Alors, parmi les demandes nouvelles des administrés parisiens, Florence Berthoux, c'est pouvoir marcher tranquillement sur les trottoirs parisiens.
Oui.
J'ai posé le problème. Depuis quelques mois, on a vu apparaître des dizaines, peut-être des centaines...
C'est des milliers.
...d'utilisateurs de trottinettes électriques qui circulent sur les trottoirs. Ça provoque un risque, notamment pour les personnes âgées, les enfants.
Je pense les mamans ou les papas avec des poussettes.
Les mamans et les papas avec des poussettes. Et puis les personnes handicapées, je pense notamment aux personnes malvoyantes.
Oui.
Qu'est-ce que vous préconisez? Il y a quand même un problème de civisme derrière tout ça.
Alors, il y a un problème de civisme et encore une fois, il faudrait que les politiques prennent leurs responsabilités. Moi, je demande avec mon groupe qu'on fasse un code du trottoir comme vous avez un code de la route. Ça peut à première vue faire sourire, mais ça fait pas du tout sourire, je peux vous dire. Par exemple, les Parisiennes et les Parisiens qui font partie des accidentés du trottoir, puisqu'il y a eu depuis un an 20% d'accidents en plus.
On dit toujours aux enfants, fais attention quand tu traverses la route, mais maintenant c'est fais attention quand tu marches sur le trottoir.
C'est uniquement quand tu marches, même pas quand tu traverses, quand tu marches sur le trottoir. Alors d'abord, il y a une loi sur les mobilités qui doit être discutée au Parlement l'année prochaine. J'espère que son examen ne va pas être renvoyé aux calendes grecques. Cette loi, elle doit permettre de fixer un statut du deux roues. On en a besoin. On en a besoin. Est-ce que une trottinette à assistance électrique, son statut c'est quoi? C'est comme un véhicule de la route, donc d'utiliser là où il y a des pistes cyclables, les pistes cyclables, ou cette trottinette à assistance électrique, elle a le droit d'être sur le trottoir. Le législateur, il doit encadrer ça pour que après on puisse punir. Mais il faut aussi et surtout obliger les opérateurs de free-floating, c'est-à-dire ces opérateurs qui ont envahi sans aucune régulation.
Alors, on va expliquer ce que c'est que le free-floating.
Le free-floating, c'est vous prenez votre trottinette, votre vélo électrique ou votre deux-roues motorisées, voilà, vous le louez et vous le ramenez où vous voulez. Voilà.
Donc, c'est-à-dire que ce sont les opérateurs qui permettent aux utilisateurs d'abandonner ces trottinettes, par exemple,
sur la chaussée. Et la ville de Paris n'a pas voulu réguler ça. Alors maintenant, elle hurle au loup en disant c'est affreux, il faudrait qu'on régule, elle se tourne vers le gouvernement, etc. Les opérateurs ont demandé à rencontrer l'exécutif municipal, qu'a laissé faire pendant de longs mois. Aujourd'hui, vous avez entre 15 000, 20 000 à peu près véhicules, en tout cas deux roues motorisées, vélo assistance électrique, trottinettes, qui sont comme ça dans Paris. Et finalement,
pas très esthétique.
C'est pas très esthétique, mais surtout c'est dangereux. Et vous pouvez sortir de chez vous le matin avec vos enfants, voilà, et puis vous buter sur une trottinette qui est devant l'entrée de votre immeuble, par exemple. Bon, donc tout ça doit être évidemment encadré. Moi, j'ai proposé avec mon groupe quelque chose de très simple. C'est de dire, écoutez, quand on utilise l'espace public, normalement, sauf avoir des passe-droits, et ça pose problème, on paie ce qu'on appelle une redevance d'occupation. Un commerçant qui a une terrasse, il paie une redevance d'occupation, et je peux vous dire que souvent, c'est pas donné. Pourquoi un opérateur qui se fait de l'argent sur le dos des utilisateurs de trottinettes, assistance électrique, de vélos assistance électrique, de deux-roues motorisées, pourquoi ils ne paieraient pas une redevance? Et comme tous ces engins sont équipés de GPS, ça veut dire qu'on peut savoir en temps réel que, bien là, j'ai mis ma trottinette devant Radio Orient à Clichy, voilà, on le sait. En l'espèce, certains opérateurs, si je laisse ma trottinette ici à Clichy, comme je l'ai prise dans Paris, vont me faire payer un malus jusqu'à 50 euros. Mais quand vous êtes dans Paris, assez étonnamment, vous pouvez mettre votre trottinette sur, par exemple, la place de la Contrescarpe dans le 5e arrondissement, vous ne paierez rien du tout. Donc, moi, ce que je propose avec mon groupe, c'est tout simplement, lorsque ces deux roues ne sont pas un endroit approprié pour le garer, eh bien, il y a un malus qui est payé par l'opérateur, ce qui incitera l'opérateur à être vertueux avec ses clients. Et je propose, parce que il faut évidemment que ces deux roues puissent avoir des lieux assez naturels de stationnement. Écoutez, franchement, la maire de Paris a décidé brusquement d'arrêter Autolib. On a 3200 places Vélib dans Autolib, pardonnez-moi, dans Paris.
Donc on pourrait les transformer en parking à trottinette.
Bien sûr. Et à deux roues. Je propose qu'on garde la moitié de ces 3200 places, voilà, pour des voitures électriques à venir, et que l'autre moitié, puisque, encore une fois, elle a décidé de mettre fin au contrat Autolib avec Bolloré, que les autres, on mette des ancrages de roues. Sur un ancrage Autolib, vous pouvez mettre entre 4 et 5 ancrages de roues. Franchement, ça coûterait pas très cher, c'est plein de bon sens, et on trouverait un début de solution à cette invasion aujourd'hui d'objets non identifiés sur le plan du code de la route, et on pourrait sanctionner si on ne respecte pas, encore une fois, les trottoirs. Je pense que c'est plein de bon sens, ça serait très vertueux et ça éviterait beaucoup d'accidents.
Florence Berthoux, l'adjoint à la propreté de la maire de Paris, a démissionné pour se consacrer aux élections européennes. Quel bilan faites-vous de l'action de Mao Péninou sur le dossier dont il avait la charge, la propreté ?
Alors je vais être, à la fois sévère et prudente. Sévère parce que le bilan sur la propreté est un mauvais bilan. Je ne sais pas s'il est personnellement comptable de ce bilan-là, puisque les décisions à la ville de Paris sont quand même très pyramidales, et que tous les plans propreté, on en a à peu près un par an, hein, qui est peu suivi des faits, mais est annoncé en grande pompe, non pas par l'adjoint, en l'espèce Mao Péninou, mais par la maire de Paris. Bon, donc, je ne sais pas dans quelle mesure il peut être solidaire ou pas, et rendu responsable ou pas, de ce mauvais bilan. C'est pour ça que mon expression est mesurée. Elle est sévère sur le bilan propreté, parce que la manière dont fonctionne la propreté à Paris, aujourd'hui, est très, très insatisfaisant pour rester dans un langage qui est un langage extrêmement mesuré. Il est lié à plusieurs choses. J'ai présidé la mission d'information et d'évaluation sur la propreté. J'ai fait, avec les membres du groupe de la MIE, 45 propositions.
C'est quoi la MIE ?
C'est une mission d'information, pardonnez-moi, et d'évaluation. L'équivalent un peu d'une commission d'enquête, mais ou d'une mission d'information parlementaire. Il y avait des conseillers de Paris de toutes couleurs politiques. C'est une des rares fois où le bilan a été, où les propositions ont été adoptées à l'unanimité. Ce qui prouve qu'on a bien travaillé, que j'ai pas travaillé dans un esprit du tout partisan. Le rapporteur était le maire PS du 18e arrondissement. Et on a fait ça comme des élus de terrain. Et on a fait ça en traitant, avec des propositions très concrètes, les deux volets, c'est-à-dire le volet incivilité. Comment on fait pour qu'il y ait moins d'incivilité? Et comment on fait pour qu'on nettoie mieux les rues? Voilà. Et en essayant de faire pas beaucoup de parlotte, pas beaucoup de logorée, et des propositions extrêmement concrètes. Moi, je peux vous dire une chose sur la propreté. Tant que on ne voudra pas à la fois investir dans des appareils qui évitent aux agents de la propreté de se fatiguer à balayer notamment les caniveaux. Tous les élus de terrain savent le type de matériel qu'il faut acheter. Il y a 2-3 types de matériel, donc des gloutons qui vous nettoient à la vitesse de l'éclair les caniveaux. Voilà, donc ça évite quand même un travail qui est un travail harassant. Parce que franchement, c'est harassant quand vous avez passé plusieurs heures avec un balai dans pour nettoyer les caniveaux. Et vous avez l'impression en plus que, voilà, c'est un peu comme le rocher de Sisyphe, vous refaites ça toute la journée. Donc moi, j'ai beaucoup d'estime pour ces personnels. Mais il faut les accompagner, il faut les encourager, il faut enlever les tâches qui sont les plus difficiles. Et dans les tâches les plus difficiles, il y a celle-ci. Ça suppose d'acheter en masse des gloutons. Ça suppose d'avoir des ateliers qui peuvent les accueillir. Moi, j'ai visité des ateliers où, par exemple, on n'avait pas installé les prises électriques qui permettaient de faire fonctionner ces machines. Ça, c'est le terrain et c'est le concret. Et après, quand on avait la prise et quand on avait le matériel, j'ai encore visité des ateliers où c'était dans les ateliers parce que des mois durant, on n'avait pas prévu les formations appropriées pour les personnels. Donc, c'est pas les personnels qui sont responsables. Moi, je dis très clairement qu'il y a un problème à un moment donné de management et d'encadrement. Il faut remettre plus de personnes sur le terrain. Ça ne veut pas dire forcément d'ailleurs qu'il faut recruter beaucoup plus, mais je note que depuis 2001, la ville de Paris a réduit les effectifs. Je me suis bagarrée pendant toute la mission d'information pour apporter la démonstration que quand on regardait les rapports, il y avait moins 1100 personnes en plus depuis 2001. Et on m'a dit, mais vous n'avez pas compris, il faut regarder les périmètres, c'est pas le bon périmètre. Et Mao Péninou vient de reconnaître dans une interview qu'il y avait moins 600, moins 700 personnes. Donc il faut remettre du personnel sur le terrain.
L'invité de Pluriel est Florence Berthoux, maire du 5e arrondissement de Paris, présidente du groupe LR et indépendant au Conseil de Paris, également conseillère régionale d'Île-de-France. On se retrouve dans quelques instants. Retour sur le plateau de Pluriel avec Florence Berthoux, maire du 5e arrondissement de Paris, maire du groupe LR et indépendant au Conseil de Paris, conseillère régionale d'Île-de-France. Avant la pause, on a parlé de la propreté. Il y a aussi un aspect que vous avez évoqué, ce sont les incivilités. Et je dirais que sur cette question, nous sommes tous concernés. Ouais. Est-ce que ça n'est pas aussi quelque chose de culturel? Si vous allez en Suisse ou en Allemagne, je vais prendre ces exemples peut-être un peu caricaturaux. Tokyo, effectivement, ses habitants sont exemplaires. Nous ne sommes pas exemplaires.
Ouais, vous avez raison. Je vous citais Tokyo, il y a une raison, c'est-à-dire que après les attentats qu'il y avait eu, on a enlevé toutes les poubelles à Tokyo. Et je me souviens y être allée il y a 2 ans, je sors d'une réunion et j'étais en train de fumer et je cherche un endroit pour mettre mon mégot, il n'y avait rien. Et c'est là où je regarde différemment la rue et je voyais qu'il n'y avait pas un papier dans des kilomètres et des kilomètres de rue où vous n'avez plus une poubelle de rue.
Donc c'est-à-dire que les habitants de Tokyo conservent leurs ordures et vont les jeter chez eux.
Bien sûr, bien sûr. Alors, on n'en est pas là et on pourrait jamais faire ça dans la capitale, mais il faut que chacun prenne sa part. Prendre sa part, ça veut dire que d'abord, il faut commencer dès le plus jeune âge. C'est là où tout se joue. Moi, j'ai mis en place ce que j'ai appelé les vendredis de la propreté, avec d'ailleurs les services de la ville de Paris, pour instituer le fait que les vendredis, il y avait une sorte de droit de tirage dans les écoles de mon arrondissement pour avoir des formations à la propreté. On a fait des petits gadgets aussi pour que les enfants apprennent les 10 commandements de la propreté. Voilà. Donc ça, c'est très, très, très important. Et puis, il faut sanctionner. Et moi, je crois beaucoup au regard social. Je ne crois pas à la sanction, le PV que personne ne voit, le contrevenant qui laisse les déjections canines dans la rue, celui qui utilise la rue comme Vespasienne, celui qui jette les papiers, etc. S'il est pris en flagrant délit, il doit avoir une amende, certes, mais le regard social du voisin, de celui qui passe, qui lui dit c'est pas bien, même quand il dit mais mêlez-vous de vos affaires, je puis vous assurer que quand même ça marque. Donc il nous appartient à tout. Et puis de le faire. Et puis il n'est pas interdit, comme moi je le fais moi-même, de me baisser 10 fois par jour pour ramasser un papier qui traîne.
Voilà. C'est ça aussi la citoyenneté?
Oui, bien sûr, c'est ça la citoyenneté. La ville, c'est la nôtre. Nous devons, comme responsables politiques, de contribuer à ce que cette ville soit le plus belle possible, soit la plus belle possible, par des embellissements, d'aménagements, par des rénovations qui soient aussi exemplaires en ce sens qu'il faut toujours s'intéresser à la maintenance, parce qu'on a parfois des rénovations ou des aménagements qui rendent extrêmement compliquées les questions de maintenance. Donc, il faut absolument se poser la question du détournement de l'espace public, de la manière dont on va pouvoir le nettoyer. Et parfois, quand on est en train d'arbitrer entre un projet et un autre, eh bien, arbitrer peut-être pour celui qui n'est pas forcément le plus extraordinaire, mais qui va être bien et en plus, qu'on va pouvoir nettoyer facilement. Moi, je me pose toujours cette question-là, peut-être aussi parce que avant d'être maire, je gérais un très grand établissement public culturel et que pour tenir les cordons de la bourse, il fallait toujours se poser ces questions-là. Comment faire du beau le moins cher possible.
On raconte que Jacques Chirac était très fier du trottoir avenue des Champs-Élysées et puis quelques temps plus tard, il a découvert tous les chewing-gums sur cette avenue des Champs-Élysées. Donc ça, ça fait partie aussi des critères quand on choisit un mobilier urbain, comment ça peut tenir sur le long terme.
Mais bien sûr, moi je note que la ville de Paris a choisi des mobiliers urbains qui sont des mobiliers urbains parfois totalement extravagants. Ça n'est pas faire injure au concepteur des poubelles de rue, pour lequel, par ailleurs, moi j'ai une immense admiration, parce que c'est aussi un très grand architecte, mais que de dire que cette poubelle de rue-là, elle est, de mon point de vue, mais de celle de milliers de Parisiens, pas très, très adaptée.
Voilà. Alors, j'aimerais, Florence Berthoud, qu'on parle des municipales. C'est encore loin, 2020, mais plusieurs personnalités ont déjà montré qu'elles s'intéressaient à ce sujet, notamment au sein de La République En Marche, où il y a déjà beaucoup de candidats déclarés.
Ils sont assez nombreux. Il va falloir faire peut-être un petit tirage au sort, je ne sais pas, si c'est avec humour.
Quel sera l'enjeu principal de ces municipales à Paris, Florence Berthoud?
Je pense que l'enjeu pour les Parisiennes et les Parisiens, ça sera d'avoir des candidats. Je dis des candidats parce que je rappelle que le maire ou la maire de Paris est élu par les conseillers de Paris, eux-mêmes élus par les Parisiennes et les Parisiens. Donc les Parisiennes et les Parisiens élisent un maire ou une maire, mais par le filtre des conseillers de Paris qu'ils élisent au sein de chaque arrondissement, ce qui parfois échappe un petit peu. Il faudra, je crois, un programme très pragmatique, avec des propositions extrêmement concrètes sur les sujets prioritaires que sont aujourd'hui la sécurité, la propreté, le logement et aussi et surtout la lutte contre le réchauffement climatique. J'y inclus évidemment là-dedans la question absolument essentielle des mobilités, la question du végétal dans la ville, la question des filières courtes, la question aussi de ce qu'on a appelé l'économie circulaire et qui sont des sujets très importants pour limiter l'empreinte carbone. Et il faudra faire des propositions qui soient des propositions qui montrent qu'on a compris les erreurs de cette mandature et que l'on est dans un registre de sobriété budgétaire, de réalisme et que l'on répond avec des solutions très très concrètes, des propositions très concrètes à ce qui ne va pas.
Anne Hidalgo semble s'être ralliée à l'idée d'une police municipale, ce que la droite parisienne réclame depuis très longtemps. En quoi une police municipale à Paris serait plus efficace que le recours à la police nationale?
Alors d'abord, il ne s'agit pas d'une police qui serait plus efficace, si vous permettez. Les missions de la police, nous le disons depuis toutes ces dernières années, et on le dit depuis longtemps, mais on le dit singulièrement depuis 4-5 ans, les missions de la police municipale, elles ont considérablement évolué. Et une partie de ces missions consiste à lutter contre le terrorisme, je le rappelle, à protéger des trop grands événements qui ne cessent de se multiplier à Paris, des événements nationaux ou internationaux. Donc on a une police qui est en partie accaparée par ça. Ajouté au fait qu'à Paris, là, nous avons perdu depuis le début de cette mandature l'équivalent d'un commissariat de police, c'est-à-dire, les syndicats le confirment, et le préfet n'a jamais remis en question ces chiffres, nous avons perdu à peu près 270 hommes et femmes. Voilà, donc c'est tout à fait considérable. Donc vous avez d'une part une réduction des effectifs, vous avez d'une part une augmentation de la menace terroriste, et vous n'avez personne, vous avez en tout cas beaucoup moins de policiers, susceptible évidemment de s'intéresser et de gérer ce que j'appellerais à la fois la délinquance du quotidien, les incivilités du quotidien. Bilan des opérations. Vous avez d'un côté des faits graves comme ce que l'on met sous le vocable crimes et délits qui n'ont cessé d'augmenter. C'est énorme, énorme. 2000 nous avons un plus 20%. Enfin, c'est quand même tout à fait considérable depuis le début de la mandature. Et après, nous avons toute une multiplication d'incivilités. Alors, la maire de Paris a récupéré ce qu'on a appelé tous les agents de la DPSP, qui est finalement une brigade des incivilités. Mais ils n'ont pas beaucoup de moyens et ils font leur maximum, ils sont insuffisamment formés. Donc moi, ce que je propose avec mon groupe, c'est que nous transformions ces agents qui sont la plupart du temps pas dotés de gilets pare-balles, qui ne sont pas armés et donc qui évidemment ne peuvent pas intervenir partout. C'est pas, si vous voulez, le fantasme de l'armement, c'est que dans un environnement qui est un environnement où vous avez de plus en plus de violence, vous avez de la menace terroriste, si vous avez une police, qu'elle soit municipale ou pas, qui est pas armée, ce sont des hommes et des femmes qui sont eux-mêmes potentiellement menacés. Donc il faut évidemment qu'ils soient armés, mais armés à condition qu'ils soient formés. Donc moi je propose que potentiellement tous ces agents de la brigade qui existent aujourd'hui, qui s'appelle encore une fois la DPSP, puissent être formés sur la base d'une formation, qui serait une formation évidemment qualifiante, professionnelle, etc., qu'on puisse les armer. Il ne serait pas évidemment, ce n'est pas la police nationale, mais ils auraient les attributs d'une police municipale. Je vais vous donner un seul exemple. Ces agents, par exemple, aujourd'hui, s'ils veulent faire payer une amende à un car étranger qui est en train, qui est mal garé, qui dégaze et fait tourner le moteur toute la journée, ils ne peuvent pas. Voilà, ils ne peuvent pas parce que la ville de Paris n'a pas créé de régie. Et donc, ils ne peuvent pas faire payer l'amende sur place. Donc, vous voyez un peu le pouvoir que sur une incivilité de cette nature, qui n'est pas la plus grave, même si elle est très handicapante pour les riverains, elle n'est pas la plus grave. Vous voyez ce que ça donne.
Florence Berthoux, est-ce que vous considérez qu'il existe des zones de non-droit actuellement à Paris?
Oui, il y a hélas, chacun le sait, des zones qui sont devenues quasi des zones de non-droit.
Vous pensez au quartier de la Chapelle?
Évidemment.
Le quartier La Chapelle-Pajol?
Bien sûr, les élus le disent. Les élus le disent. Les policiers le disent. Mezzo voce. Et surtout les riverains. Les riverains, sont absolument désemparés. Désemparés parce que en plus, on leur explique que on va peut-être accueillir encore davantage de migrants, qu'ils soient en situation, qu'ils soient des migrants économiques ou pas.
Vous faites un lien entre l'insécurité et les migrants?
Non, je dis pas ça. Je dis qu'il y a une multiplication de faits qui font que, si vous rajoutez à des actes de délinquance, de violence, et cela dit, il y a eu des actes de violence qui sont liés aussi à une suroccupation du territoire. Il faut quand même pas se cacher derrière son petit doigt quand vous mettez des gens en situation absolument épouvantable, dans des conditions sanitaires épouvantables, avec des trafics derrière épouvantables, évidemment que vous provoquez de la violence. Et ça n'est pas lié à l'origine des gens, c'est lié à un fait quasiment physique. Et à côté de ça, on explique par ailleurs que du côté du 10e arrondissement, on a fait ce qu'on a appelé pudiquement une salle de consommation à moindre risque, qui est une salle de shoot. Alors évidemment, les salles de consommation à moindre risque, elles peuvent permettre de limiter la contamination. Mais si on fait ça, il faut évidemment accompagner ça d'un renforcement considérable des dispositifs de sécurité, parce que à côté, il y a du deal. Et aujourd'hui, vous avez des dizaines de vidéos qui circulent sur Internet où on est en train de vous montrer du petit trafic dans des rayons approchant de ces salles de cette salle de consommation à moindre risque, ou des vidéos où on voit des gens qui se piquent alors même qu'il y a une salle de shoot. Donc, si on fait ça, il faut absolument l'accompagner de dispositifs appropriés.
Comment vous pouvez expliquer que dans un quartier comme La Chapelle, il y ait des enfants, des adolescents livrés à eux-mêmes? On a du mal à comprendre comment des mineurs peuvent rester dans la rue sans être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Si vous étiez maire de Paris, vous, concrètement, face à un cas pareil, qu'est-ce que vous feriez?
D'abord, je pense qu'il y a un principe de volonté affichée. Vous ne pouvez pas à la fois laisser entendre que nous pouvons ouvrir les vannes en matière d'accueil et après, évidemment, une fois que vous avez dit ça, ouvrir les vannes, être en situation, je dirais, de discipline ou pénaliser, si vous voulez, punir, ce qui est évidemment totalement contraire à la loi. Donc il faut être assez carré dans l'expression. Avoir des mineurs isolés, c'est une évidemment des problématiques les plus difficiles.
Ce sont des enfants en danger, en fait.
Parce que ce sont des enfants en danger. On a des services qui aujourd'hui sont totalement débordés. Les magistrats sont débordés, les policiers sont débordés. Et puis nous avons des trafics. Moi, je pense que à partir du moment où on a ouvert les vannes, d'abord il faut essayer de tout faire pour qu'ils arrivent quand même pas chez nous. Bon. Et une fois qu'ils sont là, il faut les mettre dans des centres.
Ça, c'est pas la responsabilité de la maire de Paris. Les migrants, ils arriveraient à Paris de toute façon.
Oui, mais enfin, je me permets quand même de vous rappeler qu'en 2016, lorsque il y a ce grand centre qui est créé, il est créé par la maire de Paris et il est créé contre l'avis du ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était un ministre de gauche. Bon, alors déjà, on commence par travailler en amont avec l'État pour accompagner. Je pense que il faut imaginer des centres où on peut accueillir ces ados, leur fournir aussi des formations qui soient adaptées et les retirer absolument des trafics, parce que derrière il y a du trafic. Mais il faut surtout que la peine pénale pour les trafiquants, elle soit tout à fait exemplaire. Et on sait très bien que c'est pas le cas aujourd'hui. Voilà.
Florence Berthoud, la thématique du logement est importante à Paris. Logement privé, logements sociaux. Il y a aussi l'arrivée sur le marché d'Airbnb et des sites comparables qui rétrécit le nombre de logements disponibles à Paris. Cette question, elle est cruciale pour les prochaines municipales.
Oui, elle est très importante. Il faut un langage de vérité. On ne peut pas réduire la question du logement social uniquement, du logement, pardonnez-moi, et du logement social, qui est une partie de la problématique. On ne peut pas régler cette question-là uniquement en raisonnant à l'intérieur du périphérique. Il faut appréhender la question de l'offre de logement, dont la question spécifique de l'offre de logement social, bien au-delà du périphérique. Moi, je milite pour deux ou trois choses. D'abord, pour un arrêt immédiat de la politique de conventionnement de la ville de Paris et pour la politique et un arrêt immédiat de la politique de préemption. Pourquoi ? Parce que la ville dépense chaque année aux alentours de 180 millions d'euros pour faire de la préemption.
C'est-à-dire que la ville acquiert des immeubles.
La ville, elle acquiert des logements privés. Ils peuvent être d'ailleurs occupés. Et puis après, elle les conventionne. Donc vous occupez un logement et du jour au lendemain, l'immeuble va être acheté. Alors certains logements sont vides. Vous l'occupez et vous vous retrouvez tout d'un coup à être locataire d'un bailleur social. Vous ne correspondez pas forcément, d'ailleurs, effectivement, aux normes de rémunération. Donc, qu'est-ce qu'on va vous dire ? On va vous dire dans un premier temps, bah écoutez, ça va, on va vous payer un surloyer. Avec un peu de chance, d'ailleurs, peut-être qu'au début, vous n'en paierez pas. Et puis, au bout d'un moment, évidemment, on vous demandera de quitter ce logement. Mais ça coûte surtout très cher. 180 millions d'euros par an pour faire de la préemption, dont une partie est occupée, une partie c'est du logement totalement diffus, ça coûte cher à l'entretien, à la maintenance, mais ça ne crée pas en soi, en tout cas dans l'immédiat, du logement social. Et puis alors il y a l'autre volet qui est encore une escroquerie encore plus grande, c'est le conventionnement, c'est-à-dire que la ville de Paris, elle avait des logements en parc privé, elle les a vendus aux bailleurs sociaux, elle les continue à les vendre chaque année. Alors on a appelé ça de manière technique, on allait leur faire payer 60 années de loyer capitalisé, donc personne n'y comprenait rien. Alors moi je vous résume cette affaire, c'est elle a vendu son parc privé aux bailleurs sociaux, qui dépendent quand même un peu ou totalement de la ville, elle leur a vendu, elle a fait une opération évidemment financière. Les bailleurs sociaux ont versé, au jour où nous parlons, ils ont déjà versé à peu près 850 millions d'euros qu'ils ont versé à la ville. Ça assèche leur trésorerie, forcément. Un jour, monsieur l'adjoint Yann Brossat m'a dit « Mais non, non, ça n'assèche pas. Je vois pas comment, quand on vous prend 850 millions d'euros, ça va pas impacter sur votre trésorerie. » Et c'est versé à la ville, qui d'ailleurs la ville le reçoit en section d'investissement. Et au lieu de faire des investissements qui vont être des investissements pour la ville de Paris, elle fait repasser ça en section de fonctionnement pour boucher ses trous. Bon, donc tout ça est une espèce de micmac absolument incroyable, pas très orthodoxe et en tout cas pas du tout vertueux. Donc moi je puis vous dire que ces deux sujets-là, il faut que ça cesse. L'argent qui est ainsi récupéré, il doit servir à deux choses, rénover le parc social et construire de nouveaux logements, d'ailleurs en partenariat avec la métropole et la région. Voilà. Et puis surtout, il faut absolument faire de l'accession sociale à la propriété. Dans des immeubles sociaux, si vous imaginez, ne serait-ce que de vendre 10% du logement social en accession à la propriété, eh bien, vous faites rentrer de l'argent dans les caisses et vous savez très bien qu'un propriétaire a tendance à se comporter un petit peu différemment.
Merci Florence Berthoud. Je rappelle que vous êtes maire du 5e arrondissement de Paris, présidente du groupe LR et indépendant au Conseil de Paris, conseillère régionale d'Île-de-France. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.